VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 8 mai 2018 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour une levée de l'interdiction des manifestations publiques en République démocratique du Congo.
Formation du premier gouvernement de la 4e République au Tchad.
Au Gabon, 3 anciens opposants font leur entrée dans le nouveau gouvernement.
Début hier d'une guerre illimitée, d'une grève illimitée des médecins en Mauritanie.
Décision attendue aujourd'hui du président américain Donald Trump sur un retrait ou non des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les autorités de la République démocratique du Congo à lever l'interdiction des manifestations publiques dans la perspective d'élections crédibles et inclusives en décembre. Le point avec Mary Benson.
Selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, autoriser les manifestations publiques en RDC favoriserait l'ouverture de l'espace politique. Il souhaite une transition démocratique du pouvoir. Les manifestations politiques sont interdites depuis décembre 2016. La répression de marches des catholiques depuis le 31 décembre a fait une quinzaine de morts. Antonio Guterres souhaite que cette interdiction de manifester soit levée et il encourage le gouvernement à favoriser les candidatures de femmes. Il demande aussi la libération de fonds pour la Commission électorale nationale indépendante. Le secrétaire général de l'ONU prévoit de se rendre à Kinshasa avec le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, pour des discussions avec le président Joseph Kabila sur les élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre.
En République démocratique du Congo même, les cadavres de 4 accompagneurs congolais de 2 experts de l'ONU tués au moment où ils enquêtaient sur des violences au Kasaï ont été retrouvés hier par la justice militaire, a-t-on annoncé de sources officielles. Les 2 experts, l'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Katala, avaient été enlevés le 12 mars dans la province du Kasaï central. Leur corps avait été retrouvé 2 semaines après. Mais depuis cette date, les 3 chauffeurs de moto et l'interprète qui les accompagnait étaient portés disparus.
Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé hier les membres de son gouvernement de 24 ministres et 4 secrétaires d'État après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e république promulguée vendredi et qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. La nouvelle équipe compte 9 femmes, conformément au vœu du président Déby de favoriser la représentativité des femmes en politique. 10 anciennes personnalités quittent le gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du pétrole.
Au Gabon, le nouveau gouvernement a prêté serment hier devant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. 3 anciens opposants font leur entrée. La Cour constitutionnelle a décidé le mois dernier de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et avait exigé la démission du gouvernement. Le point avec Bagassi Koura.
Le nouveau gouvernement est responsable uniquement devant le président Ali Bongo Ondimba. Cette équipe intérimaire va rester en place jusqu'à la tenue des élections législatives qui doivent déboucher sur la formation d'un autre gouvernement. Pour le moment, la date des législatives reste inconnue. 3 opposants font leur entrée, dont 2 poids lourds, Michel Menga Messon et Jean de Dieu Mukanyi Iwangu, qui faisaient partie des soutiens de l'opposant Jean Ping à la dernière présidentielle en 2016. Le nouveau gouvernement possède en tout 7 représentants de l'opposition. Le pouvoir n'a pas organisé les élections législatives à la date butoir du 30 avril. La Cour constitutionnelle a donc décidé de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et avait exigé la démission du gouvernement.
Les médecins mauritaniens ont entamé hier une grève illimitée pour réclamer des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux. Le point avec Raïssa Girondin.
Les médecins mauritaniens réclament des salaires alignés sur ceux de leurs collègues de la région, a déclaré Mohamed Houldaya, leader syndical. Il précise qu'ils sont entrés dans une grève illimitée après une série de grèves partielles depuis le 16 avril. Le ministre de la Santé, Kan Boubacar, a récemment demandé à une délégation de grévistes de cesser leur mouvement et de revenir à la table des négociations, mais les syndicats ont rejeté sa proposition. Nous avons entamé ces négociations en 2016 et nous ne pouvons pas continuer éternellement à perdre du temps pour rien, a expliqué Mohamed Ouldaya. Selon ce responsable syndical, le secteur médical souffre, en plus de la vétusté des équipements et d'une large diffusion de médicaments contrefaits. La Mauritanie compte quelque 800 médecins généralistes et spécialistes, soit un médecin pour environ 4500 habitants.
Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé hier le lancement d'une opération militaire pour libérer la ville de Derna sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Muammar al-Khadhafi en 2011. Derna est sous le contrôle du Conseil de la Shura des Mujahidines, une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes, notamment proches d'Al-Qaïda, qui sont hostiles à la fois à Haftar et au groupe djihadiste État islamique.
La présidence kényane a annoncé hier la mort de 9 soldats tués dans l'explosion d'un engin piégé dissimulé sur le bord de la route au passage de leur convoi dans le sud de la Somalie. Des précisions avec Irénée Herman Umbo.
Le président Uhuru Kenyatta se dit horrifié et attristé d'apprendre que son pays a perdu 9 jeunes patriotes dans une lâche attaque terroriste en Somalie. La mission pour laquelle ils ont tout donné se poursuivra jusqu'à ce que les djihadistes Shebab soient vaincus et que le peuple somalien soit de nouveau en sécurité, a déclaré le président kényan sans donner de précision sur les circonstances de l'attaque. Les victimes se trouvaient à bord d'un véhicule qui a été entièrement détruit par l'explosion d'une mine artisanale. L'engin piégé a éventré le véhicule, tuant les soldats sur le coup. Le convoi de la mission faisait route vers une base militaire de Doblé dans la région somalienne du Jubaland. Les Shebab ont revendiqué l'attentat via leur agence de presse affirmant qu'ils avaient fait 15 morts dans les rangs de l'armée kényane. Depuis 2011, le Kenya participe à la mission de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda.
À Madagascar, l'opposition a annoncé hier qu'elle ne rencontrerait pas l'émissaire spécial des Nations Unies, Abdoulaye Batili, venu pour favoriser une sortie de crise politique. Une crise qui agite la grande île à quelques mois des élections présidentielles et législatives. Depuis le 21 avril dernier, des centaines de partisans de l'opposition se réunissent tous les jours sur l'emblématique place du 13 mai pour dénoncer l'adoption de nouvelles lois électorales à ses yeux partiels et exiger la démission du président Héry Rajao Narimampianin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a promis d'annoncer aujourd'hui sa décision sur un retrait ou non des États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien et l'éventuelle réimposition de sanctions contre Téhéran. Monsieur Trump a toujours qualifié de désastre cet accord qui allège les sanctions contre l'Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire. Il trouve que ce document ne fait rien pour stopper les tests de missiles balistiques iraniens et que certaines clauses liées au nucléaire vont expirer après une certaine période de temps. Mais le président américain fait face aux pressions des deux côtés, les leaders européens qui demandent aux États-Unis de ne pas se retirer de l'accord et Israël qui accuse l'Iran de mentir et de tricher.
Toujours à Washington, le président Trump a affirmé hier que l'enquête sur les liens entre sa campagne électorale et la Russie lors de la présidentielle de 2016 est en train de perdre rapidement toute crédibilité. Il a, dans 4 tweets hier, minoré l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, ouverte il y a un an, sur l'ingérence de Moscou dans cette élection ou une éventuelle obstruction de la justice contre M. Trump suite au limogeage du directeur du FBI, James Comey, chargé alors de l'enquête. Monsieur Trump a encore parlé de chasse aux sorcières.
Le procureur de l'État de New York a annoncé hier sa démission, quelques heures seulement après la publication de plusieurs témoignages d'anciennes compagnes l'accusant de violence et de menaces, ce qu'il réfute. Eric Schneiderman a estimé que ces allégations, si elles ne sont pas liées à ses activités professionnelles, l'empêcheraient de diriger le bureau du procureur en cette période critique et il a annoncé sa démission qui prendra effet ce soir.
Le vice-président américain Mike Pence a dénoncé hier la répression et l'usage d'une force meurtrière au Nicaragua exhortant le président Daniel Ortega à laisser entrer la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour enquêter sur la mort de dizaines de manifestants en avril. Les États-Unis condamnent ces actes brutaux dans les termes les plus forts possibles, a lancé Mike Pence dans un discours applaudi au siège à Washington de l'Organisation des États américains.
Une trentaine de bâtiments ont été détruits et des dizaines d'autres sont menacés par le volcan Kilauea, le plus actif d'Hawaï, qui est entré en éruption jeudi, selon la défense civile de l'archipel américain du Pacifique. Les ordres d'évacuation restent en place pour des centaines d'habitants de Leilani Estates et de Lanipula Gardens, dans l'est de l'île d'Hawaï, menacés par la lave s'échappant de fissures volcaniques et l'émanation de gaz toxiques. Selon la défense civile, 10 fissures volcaniques sont ouvertes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Au Togo, les investisseurs retrouvent de l'appétit pour les bons des trésors. Selon le magazine Financial Afrique, le Togo a mobilisé vendredi un montant global de 24,7 milliards de francs CFA contre 20 milliards sollicités par le biais d'une émission par adjudication de bons du trésor, soit un taux de couverture de 123,7%. Au Sénégal, Grofin compte apporter sa touche pour l'innovation financière dans les PME. Spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises, l'entreprise qui a ouvert son bureau à Dakar la semaine dernière, après celui déjà opérationnel en Côte d'Ivoire, a dévoilé un plan d'action. Djibril Maket Mbengue, son directeur, a indiqué que sa priorité demeure le financement des PME au Sénégal, qui constitue l'essentiel du tissu économique du pays, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA. Du côté du Cameroun, l'économie est dominée par les services avec une activité concentrée à Douala et Yaoundé, tandis que le secteur privé reste peu pourvoyeur d'emplois. C'est ce qui ressort du dernier recensement général des entreprises publié par l'Institut national de la statistique du Cameroun.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Départ du Tour cycliste du Bénin.
Ah oui, la 15e édition du Tour cycliste du Bénin qui s'élance à Tanguetta. Au total, 8 pays seront présents dans cette édition. Le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la RDC et le Bénin, pays organisateur qui a 2 équipes. La compétition s'élance ce mardi, une première étape entre Tanguetta et Djougou sur une distance de 120 km avec 2 points chauds. Djougou et Copargo.
Le Barça reconnaît des contacts avec Griezmann.
Le président du FC Barcelone, Bartomeu, qui reconnaît avoir eu des contacts en octobre dernier avec l'entourage d'Antoine Griezmann, alors que la presse espagnole évoque un possible recrutement de la star de l'Atlético Madrid cet été. À 27 ans, Griezmann a souvent répété qu'il voulait désormais soulever des trophées, mettant cet aspect dans la balance pour entretenir l'hypothèse d'un départ de l'Atlético. En tout cas, le joueur fera part de sa décision avant le début de la Coupe du Monde en juin prochain.
En Allemagne, Ribéry prolonge.
Et oui, l'attaquant Franck Ribéry qui a signé pour une nouvelle saison au Bayern jusqu'en juin 2019. Annonce hier du club bavarois, tout juste sacré champion d'Allemagne. Et le Français de 35 ans évolue depuis 11 ans au Bayern Munich. Son comparse, le Néerlandais Robben, devrait lui aussi rester un an de plus en Bavière. Allez Drissa, avec vous les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Philadelphie a battu Boston 103 à 92, mais Boston mène toujours la série 3 victoires à 1. Cleveland a éliminé Toronto 4 victoires à 0 en battant les Raptors 128 à 93.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Sassé Doudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le procès contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, ouvert hier, doit se poursuivre aujourd'hui avec l'examen des scellés. Le président de la Cour d'appel de Brazzaville, Christian Oba, a décidé de poursuivre ce procès alors qu'hier, le général Mokoko est resté muet devant la Cour. Reportage d'Arsène Séverin à Brazzaville.
Le juge Christian Oba a décidé d'aller au fond de l'affaire et dès ce mardi, il va faire examiner les scellés produits au tribunal contre le général Mokoko. Le juge Oba n'a pas précisé s'il s'agissait de la fameuse vidéo dans laquelle on verrait l'officier en train de préparer un coup d'état contre les institutions établies à Brazzaville. Hier lundi, le général Mokoko a paru influent dans une chemise blanche, pantalon et chaussures noires, pieds croisés et confortablement assis près de maître Angèle Nyelenga, l'une de ses avocats. Après avoir décliné son identité à la cour, l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 s'est défendu en se prévalant de l'immunité de juridiction que lui confère son grade de dignitaire de la République. Et puis, il s'est éteint comme une carpe, plus un seul mot. Son avocat Eric Yvon Ibuanga explique cette attitude.
Mais c'est une position qui est légale. Il a appelé l'accusé à la barre, il a dit à la cour qu'il est bénéficiaire d'un décret qui l'élève au grade de dignitaire de la République. Donc, en vertu de ce décret qui produit plein et entier effet au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas être justiciable devant la cour criminelle.
Pour la partie civile, la fameuse stratégie de silence est tombée car Mokoko a bien parlé au cours de cette première audience. Maître Emmanuel Oko, représentant des intérêts civils dans cette affaire.
Mais je pense que c'est une mauvaise option. Et puis, les débats ont démontré que cette thèse-là ne peut plus se poursuivre, d'autant plus qu'il s'est exprimé. Il faut désormais aller au fond pour analyser les pièces du dossier, pour analyser, comme a dit la cour, les scellés.
Ce procès a débuté dans une grande confusion marquée par le refus de plusieurs journalistes, notamment ceux des médias internationaux, d'accéder au palais de justice. Une liste triée sur les volets a permis aux agents de la sécurité de ne privilégier que les journalistes de la télévision et de la radio nationale. Témoignage d'un reporter de la Griffe, un journal local.
On nous a repoussés jusqu'à ce que nous avons vu nos amis qui étaient à l'intérieur du palais, qu'on a sorti. Et puis bon, c'est un policier qui arrive, qui nous dit bon, dégagez, allez attendre les instructions de l'autre côté. On arrive là-bas, c'est une fois encore. Sincèrement, nous sommes déçus. Nous avons vu des procès dans ce pays. Il y a eu le procès de Beach qui était transmis en direct. Il n'y avait pas ce blackout qu'on peut appeler comme ça. Mais aujourd'hui, on arrive, c'est vraiment triste.
Un activiste de l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH n'a également pas pu accéder dans la salle.
Alors que c'est depuis le début de cette affaire que l'OCDH est en train de décrier et appeler de tous ses voeux qu'il ait procès du général Mokoko afin que vérité soit faite sur cette affaire. Mais malheureusement, on n'a pas permis à ce que nous ayons accès dans la salle et suivre le début de ce procès.
Tout cela est à mettre dans le compte de l'incertitude et des difficultés de cette première journée, a conclu un fonctionnaire de l'État venu faciliter l'accès des journalistes dans la salle d'audience. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Cameroun lutte contre la prolifération des armes tout en faisant face à deux insurrections en cette année électorale. Les militaires camerounais ont découvert une importante cache d'armes dans un entrepôt à Ouaïd, près de la capitale. Cette découverte alimente toutes les discussions, d'autant plus que le pays doit tenir cette année une élection présidentielle. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
Les militaires camerounais ont effectué le 30 avril un raid sur un entrepôt. Des habitants avaient signalé des mouvements suspects. L'adjudant-chef Patrice Bella a dirigé l'opération.
Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes inconnues. Voilà comment naît la mission et voir le succès que vous avez constaté.
À l'intérieur du magasin, les soldats ont découvert plus de 10 000 munitions, des explosifs, des fusils et des couteaux. Toutes les personnes arrêtées sont des nationalités camerounaises. La découverte de cette cache d'armes a suscité beaucoup d'inquiétudes car Hawaï est à quelques 55 km de Yaoundé, la capitale. La ville accueille une école internationale militaire appelée EU Force qui forme les militaires africains aux techniques de maintien de la paix. Les officiels camerounais soupçonnent des armes venues d'un pays voisin comme le Nigeria, mais les habitants se demandent comment ces armes ont pu passer la frontière de tous les postes de police et de gendarmerie sans être repérées. En tout cas, ces découvertes alimentent de chaudes discussions. Joseph Mbida est ingénieur du génie civil.
Lorsque quelqu'un a les munitions et les armes, ce qu'il a en projet. Lorsque vous convoquez au quartier Hawaï, c'est à la sortie est de la ville de Yaoundé. Si on porte les munitions à Hawaï, vers où ira-t-on? L'équation la plus simple serait de revenir à Yaoundé. Puisque c'est une question républicaine, je dois dire que je suis inquiet. Je crois que ces gens-là vont être rapidement retrouvés et que les munitions vont être remises là où elles doivent être.
Le Cameroun doit tenir en octobre des élections présidentielles, législatives et municipales. Dans le même temps, l'extrême nord du pays subit des attaques répétées de Boko Haram, pendant que dans les deux régions anglophones, les rebelles séparatistes demandent l'indépendance. Le mois dernier, le gouvernement a interdit toute vente légale d'armes à des civils. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a affirmé pendant une réunion sur la sécurité à Yaoundé qu'il y avait près de 30 000 armes de guerre et armes légères en circulation au Cameroun.
Ça a atteint des proportions inquiétantes et représente une réelle menace à l'ordre public. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où les gens louent les armes et munitions pour aller braquer. Il y a plus de 27 000 armes et munitions en circulation.
Regarde le contexte sécuritaire actuel dans notre pays. Le gouvernement n'avait pas de choix que de prendre ses responsabilités en procédant à la fermeture à titre conservatoire de toutes les armureries installées dans certaines régions et bientôt dans tout le pays.
Une loi adoptée en 2016 punit de 5 à 10 ans de prison toute possession illégale d'armes. Mais la possession illégale d'armes est jugée par un tribunal militaire qui peut condamner à la prison à perpétuité si la personne jugée avait l'intention de troubler la paix et l'ordre public.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, la Voix de l'Amérique et la BBC n'émettent plus depuis hier sur décision du Conseil national de la communication. Nous verrons tout à l'heure avec notre correspondant sur place comment les Burundais ont réagi à cette décision. Mais auparavant, une déclaration du PDG de BBG, l'agence responsable de la VOA, John Lansing, et la réaction du CPG, du CPG, le comité de protection des journalistes. Monsieur Lansing a fait remarquer qu'un jour après la journée internationale de la liberté de la presse et 10 jours avant un référendum qui pourrait changer la limitation des mandats présidentiels, le gouvernement a annoncé vendredi dernier qu'il suspendait la diffusion radio de VOA sur FM pendant 6 mois à partir du lundi 7 mai. Bien que la VOA diffuse aussi sur AM, ondes courtes et Internet, la fréquence FM est sans aucun doute le moyen le plus populaire pour parler aux Burundais. Ils en sont arrivés à dépendre des nouvelles et informations objectives et non censurées de la VOA. Étant donné les crises politiques et humanitaires qui empirent dans le pays, ce besoin est plus urgent que jamais. L'agence BBG continuera d'appuyer le peuple burundais en fournissant des programmes d'information fiables et corrects. Et le PDG John Lansing d'exhorter le président burundais Pierre Nkurunziza à revenir sur cette décision pour aider à assurer la sécurité, prévenir les troubles et protéger la population. De son côté, le CPJ a demandé aux autorités burundaises de lever immédiatement leur décision sur la VOA et la BBC. Il estime que ces mesures constituent une tentative transparente de museler les médias pendant cette période politiquement délicate. En réaction, le président du Conseil national de la communication, Karenga Ramadani, a déclaré que ces décisions n'avaient rien à voir avec le prochain référendum, mais visent à assurer que les radios concernées respectent les critères réglementaire, en particulier l'équilibre dans le traitement de l'information. Maintenant, le reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza sur les réactions d'auditeurs burundais.
Nadège Douce, 38 ans, est une femme mariée et mère de 3 enfants. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle écoute régulièrement VOA Afrique. Ce matin, elle s'est réveillée pour être au fait de l'actualité, mais se dit déçue. Témoignage.
J'ai été vraiment désolée parce que tous les matins, j'ai l'habitude d'ouvrir la radio pour suivre les informations. Mais pour le moment, j'ai pas d'informations. Je ne suis pas contente de ça. J'aimerais qu'on puisse encore réouvrir ces stations pour continuer à suivre les infos. Elles sont très bénéfiques parce que on suit les informations du pays en même temps les informations internationales.
Même constat pour ce jeune de 28 ans qui étudie à l'Université du Burundi mais qui a requis l'anonymat.
Je crois que le gouvernement en place veut peut-être que nous ne sachions pas ou veut peut-être cacher de l'information, surtout de l'opposition. On n'a pas vraiment des informations provenant de l'opposition. Si je dis opposition, je dis opposition en exil surtout. Mais on veut savoir aussi de nos frères de l'extérieur du pays.
Ce journaliste de la radio Isanganiro qui a été mis en garde estime que la peur présente chez la plupart des Burundais va aller crescendo jusqu'au référendum constitutionnel.
Bon, ce sont des radios qui nous inspirent, des radios qui ont quelquefois des bonnes émissions, qui nous informent, donc qui nous complètent. Voilà, on n'a plus de compléments, on se demande ce qui va se passer après, on se dit ah, ça sera à notre tour. C'est ça le sentiment qui tourne tout le temps dans nos têtes. On se dit qu'est-ce qui va se passer après.
Malgré la fermeture de ces radios, la campagne qui va consacrer les 8 selon des sources indépendantes bat son plein. 15 partisans du parti Front National de Libération de l'ancien rebelle Agathon Rwasa ont été incarcérés selon le président du groupe parlementaire Amizero ya Barundi, Pierre-Célestin Ndikumana.
Nous avions l'espoir au début quand nous avons ouvert la campagne en Ngozi. Il y avait quand même un signe d'espoir parce qu'on avait tenu cette campagne. Presque partout, on a entendu déjà des intimidations, mais aussi des messages. Je vous donnerai l'exemple d'hier. On a arrêté 15 personnes dans la commune Mutambu et ces personnes ont été arrêtées au vu et au su de l'administration.
Mais le porte-parole de la police affirme que personne n'a été arrêté, Pierre Mourikié.
C'est un mensonge. Comment est-ce qu'on peut arrêter des gens qui sont en train de battre campagne alors que c'est le moment de battre campagne? Alors que cette même coalition est autorisée à battre campagne? Plutôt, les informations que détient le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes révèlent que cette coalition est en train de battre campagne dans le pays et en toute sécurité.
Il est à rappeler que Léon Sengué Ndakoumana, vice-président du parti Frodebou, Front pour la démocratie au Burundi, a indiqué à VOA Afrique que la campagne se déroule normalement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'année dernière, une enquête du gouvernement américain a répertorié près de 550 000 personnes sans abri dans les rues. C'est une première augmentation des personnes sans domicile depuis 2010 et elle serait due, selon les experts, à la prolifération des personnes vivant dans les rues de Los Angeles et d'autres villes de la côte ouest. Reportage d'Angelina Bagdasarian, repris ici par Blanche Sanou.
Angela vivait dans une tente comme celle-ci et elle se souvient très bien de ce qu'elle ressentait comme sans-abri. Et même si elle ne vit plus dans la rue, c'est là qu'elle a passé les nuits dernières en solidarité avec le mouvement Shidaz qui soutient les femmes sans-abri à Los Angeles. Angela croit que chacune d'elles mérite de se sentir en sécurité et aimée. Elle mérite la protection, l'amour, en toi. Elles méritent tout parce qu'elles existent. Cette cité de tente est apparue devant la mairie de Los Angeles, une tentative pour montrer aux autorités locales ce qui pourrait arriver si l'administration de la ville continue d'ignorer le problème.
En ce moment, nous sommes dans une crise de sans-abri. Si nous ne trouvons pas une solution à ce problème, c'est ce que vous allez voir dans chaque coin de rue à Los Angeles.
De plus en plus de tentes apparaissent chaque jour. Selon les statistiques officielles, plus de 60 000 personnes dans la région sont maintenant des sans-abri. En décembre 2017, un feu a commencé dans un camp pour sans-abri et a atteint les maisons voisines. Des dizaines de foyers ont été détruits. Il y a quelques jours, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a noté que la situation des sans-domicile fixe est vraiment critique.
Nous devons construire des refuges d'urgence et nous devons le faire maintenant. Des abris qui servent de tremplin vers le chemin du logement permanent.
La ville a déjà alloué plus de 20 millions de dollars à la construction d'abris temporaires. Mais certains habitants de Los Angeles s'opposent à ce qu'ils appellent une subvention pour les sans-abris.
Pourquoi la ville ne peut-elle pas aider ceux qui travaillent, les étudiants par exemple? J'aimerais aussi avoir un petit appartement propre et privé, mais je ne peux pas me le permettre. Et ils donnent des appartements à des gens qui n'aident pas du tout la société?
Avec ses voisins et des militants locaux, Tatiana tente de convaincre les autorités de la ville de bannir le phénomène vivre et dormir dans la rue. Mais jusqu'à présent, c'est sans effet.
temps d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Iris Assidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.